Le dévoilement de Dieu numéro 131. Les pouces du temps de la fin et Sididrachme. 14 décembre 2019 AM. Pasteur Brian Kozurek. Dans le dévoilement de Dieu paragraphe 126. Nous avons lu la semaine dernière. Là où frère Branham a dit. Eh bien. Et si vous prononciez seulement la parole. Et que la parole n'a aucun effet. À quoi ça servirait d'avoir l'épée ici? Et dire, elle Néhémie peut pas déchirer? Dire, en. Et que ça Néhémie déchire pas? Mais quand vous posez cette épée de Dieu là-haut, regardez-la déchirer. Elle est tenue par une main qui a été établie et envoyée pour faire ça. Voyez-vous? Elle déchire le voile en deux. Et voilà. Il est là. Là. On peut voir Dieu, clairement, exposé au regard, le grand Jéhovah. S'Esther sa parole manifestée, la portion qui est Esther promise pour le jour en question. Saisissez-vous. Voyez, quand l'épée, ce qui est Esther promis pour aujourd'hui, ce qui doit arriver en ce jour-ci, quand Dieu prend son épée et qu'il déchire le voile dénominationnel en deux et l'ouvre, et qu'il se manifeste et montre qu'il est là, toujours cette même colonne de feu. Remarquez, ça. C'est Esther la parole manifestée, pour les promesses d'aujourd'hui. Maintenant, je voudrais parler ce matin d'une portion de la parole, qui concerne ce jour. Et nous étudierons cette portion dans la parabole dont Jésus avait parlé dans Luc 15, 8-10. Concernant les pouces du temps de la fin et Sididrachme. Et nous étudions cela pour les gens, afin que cela soit vivant pour nous. Car après tout, il dit, eh bien, et si vous prononciez seulement la parole, et que la parole n'a aucun effet, à quoi ça servirait d'avoir l'épée ici? Et dire, elle Néhémie peut pas déchirer? Dire, en. Et que ça Néhémie déchire pas? Mais quand vous posez cette épée de Dieu là-haut, regardez-la déchirer. Elle est tenue par une main qui a été établie et envoyée pour faire ça. Et ainsi, notre prière. Ce matin Esther que nous puissions être cette main établie et envoyée pour prendre soin de cette parole et s'y tenir fermement, afin qu'elle accomplisse ce qu'elle a été destinée à accomplir. Et ce sera ainsi, si nous sommes destinés à cette portion de la parole. Maintenant, avant que nous lisions cette parabole, je veux que vous compreniez que l'actrice principale de cette parabole est Esther, une femme, et une femme dans l'écriture représente l'Église, qu'elle soit représentée comme une épouse ou comme une prostituée. Comme une épouse, elle représente la véritable Église, et, comme une prostituée, elle représente la fausse église, qu'elle est fausse envers son vœu de mariage. La scène qui se déroule dans cette parabole de l'épouse du temps de la fin, concerne cette femme frénétique, les mesures soigneuses qu'elle a adoptées pour retrouver cette drachme manquante, qu'elle avait perdue de sa couronne. Il nous est dit qu'elle avait 10 drachmes et qu'elle avait perdu une d'entre elles. Ainsi, ouvrons nos Bibles et lisons cette parabole de la femme et Sididrachme. Maintenant, vous constaterez pendant que nous lisons que je l'ai décortiqué en 12 points, afin de la comprendre. Luc 15, 8-9 ou qu'elle a une femme, si elle a 2, 10, 3 drachmes, et qu'elle en 4, perde une, 5, n'allume une lampe, 6. Néhémie balaie la maison. Et 7. Néhémie cherche avec soin. Jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée. 8. Elle appelle. 9. Ses amis et ses voisines. 10. Ensemble. Et dit. 11. Réjouissez-vous avec moi. Car. 12. J'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Prions. Cher Père Céleste. Nous venons de nouveau à ta parole ce matin, pour te connaître mieux et recevoir une meilleure compréhension des conditions qui nous environnent en cette heure. Ainsi, Père, nous savons que ces paraboles ont été racontées par ton Fils Jésus, et comme Esther une partie du Nouveau Testament, et donc, comme ton prophète l'a déclaré, elles doivent parler de cette heure. Tu as toi-même déclaré à Moïse, « Je suis celui qui suis » et tu nous as dit dans le livre de Malachie « Je suis l'Éternel, ton Dieu et je ne m'y change pas. » Et nous savons que tu esailles la parole. Ainsi, tu esailles la parole qui vit pour toujours, et non pas la parole pour les jours passés, mais tu esailles la parole pour le jour dans lequel nous vivons, l'eau toujours présente sur le rocher. Tu esailles la parole vivante, et nous désirons, Père, de voir ta parole vivant elle-même devant nous et en nous en cette heure. Ainsi, Père, nous demandons que ton esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de toi-même puisse nous ouvrir la compréhension de cette parabole qui parle de l'épouse de Christ du temps de la fin et la rendre vivante dans chacun et à tous, afin que nous soyons comme ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, comme le disait leur propre témoignage. Nos cœurs n'y brûlaient-ils pas au-dedans de nous, alors qu'ils nous avaient ouvert les Écritures? Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé et obéissant. Amen. Maintenant, avant que nous n'allions plus loin, je veux que vous compreniez que cette parabole que nous allons examiner ce matin parle de la seconde venue de Christ. Et dans sa prédication, la seconde venue du Seigneur 17 avril 1957-17. Frère Branham dit, maintenant, j'aimerais lire juste un verset, une ligne ou deux dans la Sainte Parole. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, verset 8, où quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, Néhémie balaie la maison, et Néhémie cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines, et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » 18 Maintenant, ceci peut sembler être une écriture très étrange en rapport avec la seconde venue de Christ, et mais cela parle de la seconde venue de Christ. Si nous devons comprendre cette parabole à la lumière d'aujourd'hui, avant tout, nous avons besoin de savoir ce qu'Esther cette femme, car c'est Esther ce que Jésus pose comme question ici. Remarquez, il pose une question, ou quelle femme, ou qui Esther cette femme si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, Néhémie balaie la maison, et Néhémie cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Maintenant, remarquez dans votre Bible, qu'il y a un point d'interrogation, nous montrant que c'est une question que Jésus pose. Ainsi, en lisant cette phrase, nous devons aussi poser la question, qui est-elle cette femme, et que représente-t-elle, parce que c'est exactement ce que Jésus nous demande. Il dit, quelle femme ou, qui est-elle cette femme, qui jouerait ce rôle dans ce contexte? Ainsi, pour comprendre cette parabole, je l'ai décortiqué en 12 points à examiner. Et souvenez-vous, cette parabole parle de l'épouse du temps de la fin. Et souvenez-vous, dans sa prédication Shalom paragraphe 92, William Branham dit tout l'Ancien Testament parle de cette heure. Numéro 1, nous devons savoir qui cette femme Esther. Que représente-elle? Car si nous Néhémie comprenons pas qui ou ce qu'elle représente, alors nous Néhémie pouvons même pas comprendre la parabole en soi, et comment elle s'appliquerait à cette heure. Numéro 2, nous comprenons qu'elle a 10 drachmes mais ainsi, nous devons comprendre pourquoi elle en avait 10. Et que signifie-t-il? Quelle est-elle la signification de ce chiffre 10? Que Jésus a utilisé avec un but dans cette parabole. Concernant les 10 drachmes. Numéro 3, comme nous savons qu'elle a 10 drachmes, alors nous devons savoir que représentent ces drachmes, Numéro 4. Comme elle a perdu une drachme et Esther devenue soigneuse et diligente dans sa recherche, nous devons nous poser la question. Que représente la drachme perdue et pourquoi Esther est si importante pour que l'on soit obligé de la retrouver? Numéro 5. Dans sa recherche de cette drachme perdue, elle allume une lampe. Ainsi, nous devons nous poser la question. Que signifie l'allumage d'une lampe? Numéro 6. Et dans cette recherche de la drachme manquante, nous la trouvons balayant sa maison. Et ainsi nous devons nous demander. Que signifie ce balayage pour nous en cette heure? Numéro 7. Comme elle semble être diligente dans sa recherche de cette drachme manquante, nous devons nous demander. Pourquoi cette drachme est-elle si importante au point de mettre toute la maison sans dessus, sans dessous, pendant qu'elle la cherche? Pourquoi est-elle si diligente pour la recherche de cette drachme manquante? Quelles sont les circonstances qui l'ont amenée à ce qui pourrait sembler être un état de panique, essayant de trouver cette drachme manquante? Numéro 8. Une fois qu'elle avait retrouvé cette drachme perdue, nous devons comprendre la signification de son invitation aux amis et voisins. Pourquoi les appelle-t-elle? Numéro 9. Ainsi, nous devons nous demander qui sont ses voisins et qui sont les amis qu'elle appelle. Numéro 10. Et pourquoi les appelle-t-elle ensemble? Pourquoi ensemble? Pourquoi pas un à un? Que signifie ceci? Appelant ces gens à se rassembler? Numéro 11. Que signifie la réjouissance dans cette parabole? Numéro 12. Quelle est-elle la signification de ces mots? J'ai retrouvé ce que j'avais perdu? Maintenant que nous avons étalé plusieurs questions qui exigent des réponses, commençons notre étude au point numéro 1. Qui est-elle? Qu'est-ce cette femme? Maintenant, c'est Esther une bonne question. Et comme Jésus-Néhémie nous dit pas son nom, nous devons accepter qu'elle représente en type un certain groupe. Maintenant, la semaine dernière dans notre étude sur les dix vierges, nous avons lu où frère Branham nous a dit que la femme, ou les femmes, à travers les Écritures, représentent toujours une église. Dans la prédication, pourquoi nous n'émis sommes pas une dénomination? 27 septembre 1958, 31 William Branham a dit, maintenant, une femme, dans la Bible, représente l'Église. Combien le savent? Nous sommes une épouse. L'Église Esther une épouse. Maintenant, étant donné que cette femme à laquelle Jésus fait allusion, dans cette parabole représente une église, nous devons alors nous poser la question, quelle église représente-t-elle ici? Car qu'il y a une véritable église et une fausse église. L'une est appelée une épouse, tandis que l'autre est appelée une prostituée, parce qu'elle est infidèle à son vœu de mariage à l'égard de son mari. En posant ces questions, nous commençons à comprendre le pourquoi du comportement particulier de cette femme et pourquoi cherche-t-elle avec diligence cette drachme manquante. Si vous vous souvenez la semaine dernière, quand nous avions étudié la parabole sur les dix vierges, nous avons découvert que ces vierges représentaient l'Église dans sa pureté, sans aucun credo humain parmi eux. Elle n'émit croyait qu'à la Bible, seule. Elle croit sola scriptura comme Martin Luther l'aura dit. Et nous découvrons dans la parabole où il y avait les dix vierges, et nous examinons le but du chiffre 10 derrière, concernant les vierges, et nous les voyons représenter la venue de l'achèvement d'un système entier, la fin d'un cycle, et le début d'un nouveau. Numéro 2, nous savons que cette épouse a dix drachmes ainsi, nous devons comprendre pourquoi en a-t-elle. Et ce que cela signifie? Pourquoi Jésus parle de dix drachmes dans cette parabole? Et que cela signifie-t-il pour nous? Maintenant, comme nous l'avons déclaré la semaine dernière, le chiffre 10 est l'un des nombres parfaits, c'est significatif. car il représente le système numérique entier arrivant à son achèvement. Ainsi, le chiffre 10 signifie que le cycle entier Esther est maintenant complet. Le chiffre 10 Esther utilisé à travers l'écriture pour représenter la fin d'un cycle, comme Dieu avait achevé le cycle de l'homme dans l'âge antédiluvien avec Noé. Noé était le 10e de sa génération depuis Adam, amenant une nouvelle alliance de Dieu, et Abraham était la 10e génération depuis Noé, apportant une nouvelle alliance inconditionnelle de la part de Dieu, et David était la 10e génération depuis Abraham, etc. Il y avait 10 commandements, et aussi 10 espions que Moïse envoya pour espionner le pays. Et il y avait 10 rangées de 10 talents en pièces d'argent, qui constituaient la base ou le socle pour le tabernacle dans le désert. Les dîmes sont un 10e, qui représente tout ce que nous devons à Dieu, montrant ses droits sur l'ensemble, et il y avait 10 plaies sur l'Égypte, qui ont conduit le cycle de la puissance du monde en Égypte à la fin. Ainsi, comme nous l'avons vu la semaine dernière, le chiffre 10 représente une conclusion, et réfère à la fin du cycle entier et complet. Et ici dans cette parabole, nous voyons qu'il y a 10 drachmes auxquelles Jésus se réfère. Maintenant, 10 parle de la fin. Ainsi nous voyons encore que dans cette parabole, que Jésus parle du cycle complet de quelque chose. Et comme le chiffre 10 se rapporte aux drachmes dans cette parabole, nous devons comprendre que signifie drachme, dans le but de connaître ce qui arrive à son cycle complet, et ainsi vers sa fin. Maintenant, comme les 10 drachmes concernent cette femme, cette épouse, nous devons comprendre ce que c'est Esther si important pour cette femme, cette épouse qu'elle soit devenue obsédée de trouver cette drachme manquante. Et comme cela avait eu de l'impact sur une femme, nous devons découvrir ce que la drachme représente. Ainsi nous pourrons comprendre sa réaction, du fait de n'aimer pas l'avoir. Parce que si 10 représente la conclusion de quelque chose, alors ceci concerne la femme, l'épouse, et cela peut nous dire pourquoi elle était si désespérée à la retrouver. Maintenant, souvenez-vous, elle, une femme, représente l'Église. Numéro 3, nous savons qu'elle avait des drachmes, et ainsi, nous devons savoir ce qu'elles sont et ce qu'elles représentent. Maintenant, dans les Écritures, la drachme représente la rédemption par le raffinage. Maintenant, la rédemption signifie ramener à la condition originale, et raffiner signifie amener à la pureté. Et le raffinage représente le processus par lequel les scories sont extraites de l'argent, afin qu'il montre sa pureté. Les scories constituent la partie impure de l'argent. Ainsi, c'est Esther l'extraction de l'impureté. Les scories, ce sont les impuretés qui se trouvent dans l'argent ou surtout métal précieux. Ainsi, les scories représentent le péché. Dans notre vie, ces choses qui nous rendent impurs. 1 Pierre 1, 18-19 Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Psaume 12, 7 Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et cette foi épurée. Psaume 66, 10 Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Ainsi, nous voyons que cette femme avait ses drachmes, qui représentaient la pureté et le raffinage. Elle représentait tout ce qu'elle était pour son mari. Ainsi, en perdant l'une de ses pièces, aurait une grande signification dans sa relation envers son mari. S'il rentrait à la maison et qu'elle manquait une de ses pièces, il n'aimait la reconnaîtrait pas comme étant sienne. Ainsi, ses pièces représentaient non seulement son raffinage mais aussi sa rédemption. Et le mot racheter signifie racheter ou ramener à sa position légitime. Et quand il revenait, elle, ayant les 10 drachmes représentées, la rendant elle-même prête, pour la ramener dans sa présence et pour recevoir sa position légitime à ses côtés. Mais avoir une drachme de moins, signifiait le rejet, le déshonneur et la séparation. Dans sa prédication, la seconde venue du Seigneur 17 avril 1957-54. Frère Branham dit, il est Esther plus tard que nous Néhémie le pensons. Nous Néhémie venons pas à l'église pour occuper un banc, nous Néhémie venons pas à l'église pour entendre un bon sermon, ni pour entendre une bonne musique. Toutes ces choses ont leur place, mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est-à-dire de nous examiner vis-à-vis de Dieu, concernant le salut de nos âmes. Car le jour de la rédemption est proche. 55 Jésus-Christ, le Fils de Dieu a comparé cela, d'après ses propres termes, à une femme. Et dans notre sujet ce soir, nous trouvons cette femme, dont le mari avait voyagé, et qui avait perdu une des drachmes de sa tablette. Maintenant, j'essaierai d'expliquer cela. 56 Aujourd'hui, si une femme est mariée, elle devrait porter une alliance. Signe montrant qu'elle est mariée. Ça, c'est pour empêcher les autres hommes de faire quoi que ce soit avec elle. Quand il la regarde, il voit qu'elle est une femme mariée. 57 En ces jours-là, on n'avait pas d'anneau de mariage. On avait une tablette, on appelle cela une tablette, qu'on portait autour de la tête. Elle contenait 10 drachmes, et elle entoura la tête. Et c'était là le signe qu'elles étaient des femmes mariées, et aucun homme Néhémie devait s'amuser avec elles, aucun garçon Néhémie devait flirter avec elles. Elles étaient mariées. 61 Oh. S'il n'y a jamais eu un temps où l'Église devrait faire un inventaire pour voir si on a toutes les drachmes, il fait sombre. Là, l'oppression et les nuages d'une civilisation dévastatrice sont suspendus au-dessus de la terre. Partout s'estère le péché et la débauche. Nous vivons une époque terrible où règne la méchanceté. Les gens n'aiment vont à l'Église que pour la forme. Les gens vont à l'église pour essayer de cacher leur bassesse. Des gens vont à l'église et professent être chrétiens, mais vivent comme le reste du monde. Ils boivent, ils fument, ils jouent à l'argent. Les femmes s'habillent d'une façon immorale, portant en public des vêtements qu'elles n'aiment et devraient même pas porter dans leur cabinet de toilette. Et cependant, elles les portent en public dans la rue. Et l'amour fraternel est une chose qui est presque en voie de disparition. Nous n'avons pas perdu une drachme, mais nous les avons pratiquement perdues toutes. 62 La nuit tombait. Et souvenez-vous, son mari devait retourner. Et s'il la trouvait avec Néhémie, fût-ce qu'une drachme de moins, cela signifiait qu'elle avait été marquée comme étant une prostituée. 63 Et si elle avait souillé, s'était souillée d'une façon ou d'une autre, et que les gens l'avaient vue, on l'amenait devant le sacrificateur et on apportait la preuve qui attestait qu'elle avait été prise en flagrant délit. Et si le sacrificateur constatait qu'elle était une femme mariée, il retirait de sa tablette une drachme en considérant le mal acquis qu'elle avait fait. Si elle avait gâché sa vertu, on lui enlevait la drachme correspondante. Si elle avait flirté, elle montrait ainsi qu'elle n'était pas fidèle à son mari, on lui enlevait la drachme correspondante. Quelle que fût la faute, on lui enlevait la drachme correspondante. Au retour de son mari, celui-ci voyait qu'elle avait été marquée, et il divorçait immédiatement et n'avait plus rien à faire d'une telle femme. Il n'aimait voulait plus d'une telle femme. Ainsi, c'était presque à la tombée de la nuit qu'elle s'aperçut qu'elle avait perdu quelque chose. C'était à ce moment-là que son mari devait rentrer à la maison, Et il se faisait tard. Et, écoutez bien. L'église Esther en train de fainéanter. Le mot fainéanter signifie, décliner ou se pencher de manière détendue, fatigué, ou une manière indolente, voulant se débarrasser de l'activité. Frère Branham continue, l'église n'a plus de conscience. Esther à peine si vous pouvez la réveiller. La Bible dit qu'elle en viendrait à dire, voici, notre maître tarde à venir. Et les gens s'entre-dévoreraient, se mordraient tout, et se combattraient les uns les autres. On Esther très exactement en cette heure-là. Tout Esther prêt, les pages sont tournées pour ainsi dire, et la venue du Seigneur Esther proche. Maintenant, nous découvrons aussi que dans l'Ancien Testament, il y avait une loi du mari jaloux, et que si le mari rentrait à la maison et qu'il avait des soupçons que sa femme était infidèle, pendant qu'il était absent, il y avait une certaine chose qu'il pouvait faire, et nous voyons cela être dit dans Nombre 5. Nombre 5, 11-31 L'Éternel parla à Moïse, et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari, et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'Esther souillée en secret, sans qu'il y ait de témoin contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari Esther saisit d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, qui s'Esther souillée, ou bien si l'Esther saisit d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, qui n'est mis Esther point souillée. Cet homme amènera sa femme au sacrificateur, et apportera en offrande pour elle un dixième des fas de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile, et n'y mettra point d'encens, car Esther une offrande de jalousie, une offrande de souvenir, qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher, et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre, il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle, et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel, il découvrira la tête de la femme, et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme, et lui dira, « Si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu n'es mis ton ésaïe point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction n'est mis te seront point funestes. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en ésailles détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi. Et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation, et lui dira, que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira, Amen. Amen. Le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie, il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel, et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel. C'est Esther après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'Esther souillée a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume, son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme Néhémie s'estère point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie. Pour le cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et se souille, et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme, le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel, et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Maintenant, remarquez ici que l'Oester amer est dans la version du roi Jacques. Il Esther dit que l'Oester la cause de la malédiction. Mais ce qui amène réellement la malédiction, ce n'Esther pas l'eau, que la femme soit coupable ou non. Car l'eau n'amène pas la malédiction, mais l'eau n'Esther qu'un catalyseur qui amène en manifestation ce qui Esther déjà là. Si la femme Esther innocente, alors il n'y a pas de malédiction sur elle, mais seulement la bénédiction, même si elle aurait bu de l'eau. Ainsi, l'eau en soi n'amène pas la malédiction, mais c'est Esther un catalyseur de la malédiction, si elle Esther trouvée coupable. Comme les eaux du déluge. Les mêmes eaux qui avaient détruit les méchants de la terre, et nettoya la terre des voies souillées de l'homme, c'est Esther la même eau qui éleva Noé au-dessus de la terre, et l'amena loin de la mort et la destruction qui était devant. Et l'eau amère représente le lavage d'eau par la parole. Juste comme le rouleau que le prophète mangea, lequel représente aussi la parole de Dieu, douce à la bouche, mais amère à l'estomac. Apocalypse 10, 9-10 et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai, il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Nombre 4, que représente la drachme manquante. Et pourquoi l'Esther si désespérée pour la retrouver? Pourquoi l'épouse Esther elle si concernée du fait de n'avoir que 9 de ses drachmes? Frère Branham dit aussi dans la seconde venue du Seigneur 17 avril 1957-58. Chacune de ces drachmes. Si seulement nous avions le temps, mais je n'en ai pas, je vais essayer de tenir parole. Autant que possible, je pouvais vous dire ce que chacune de ces drachmes représentait. Elles étaient placées là, et chaque drachme représentait une certaine vertu de cette femme. La première représentait son amour envers son mari. La deuxième, son engagement à vivre vertueusement et avec pureté pour lui. Et la troisième, la quatrième et la cinquième, jusqu'à la neuvième et la dixième. 59 Si vous voulez voir cela, regardez dans Galates 5. Vous verrez que cette femme représentait l'Église, et l'Église Esther une femme qui Esther mariée à Christ. Et la tablette que l'Église Esther supposait porter Esther mentionnée dans Galates 5. C'est Esther la charité, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance et la patience. Voilà la tablette qu'on Esther censée porter dans l'Église, l'amour fraternel, l'amabilité, l'amitié. 60 Et cette femme, lorsqu'il devait faire presque sombre lorsqu'elle découvrait qu'elle avait perdu une de ses drachmes. Galates 5, 22-25 Mais le fruit de l'esprit, c'est Esther 1. L'amour 2. La joie 3. La paix 4. La patience 5. La bonté 6. La bénignité 7. La fidélité 8. La douceur 9. La tempérance. La loi n'Esther pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus, Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Maintenant, Galates 5 parle juste de 9 fruits de l'Esprit, mais le fruit le plus important, le 10e fruit de l'Esprit manque ici. Et sans ce fruit, vous pourriez avoir tous les 9 fruits de l'Esprit qui sont listés dans Galates 5, et seraient considérés comme adultères, juste comme la femme dont le parabole avait peur. Frère Branham dit dans sa prédication Le Paradoxe 6 février 1964 BP, 78. Nous, pentecôtistes, mettons notre évidence dans le parler en langue, et comment nous nous sommes mal acquis pris en cela. Et combien d'entre eux disent que le fruit de l'esprit estère l'évidence? Combien vous vous êtes mal acquis pris avec cela? Non, monsieur. Ainsi, cette femme a 9 drachmes, elle avait 9 fruits de l'esprit, et pourtant elle demeurait peureuse, du fait que la seule pièce manquante la présenterait comme une femme adultère. Et combien des gens qui parlent doucement, aux manières douces, l'amour de la paix, des gens à l'esprit gentil ont rejeté le véritable Dieu, qui Esther descendu avec un cri. Ils l'ont fait, quand il s'estère manifesté lui-même dans son Fils et ils agissent pareillement aujourd'hui. Dans la prédication, messieurs, nous voudrions voir Jésus 4 mars 1964 38. Frère Branham dit, ces pharisiens pouvaient montrer les fruits 10 fois plus que Jésus n'aimait le pouvait. Le savez-vous? Dieu identifié par ses caractéristiques 11 mars 1964 p. 23. Certains d'entre eux disent, le fruit de l'esprit, ils l'ont. Et Esther faux. La seule évidence Esther est la confirmation, quand Dieu s'identifie lui-même dans la parole promise de l'heure. Le voici. Qu'il y aura plus des fruits de l'esprit que ce genre de vieux prêtre, qui faisiez circoncire les enfants, et les bénissez, et autre chose, et ici, ce gars Jésus Esther venu et a donné un coup d'épée à leur tas des sacrifices, les a regardés avec colère, les a frappés, les a jetés, aucune identification de rien. L'écriture Esther son identification. Il n'avait aucune carte de membre, il n'appartenait à aucune organisation. Mais Dieu a parlé de lui, c'était son identification. C'est Esther l'identification authentique de Dieu dans chaque cœur. C'est Esther son identification. C'est Esther ce que c'est Esther, les Écritures qui ont promis, identifié par les caractéristiques de la promesse, qui est Esther Dieu, et Dieu Esther la parole. Et la caractéristique de la promesse, étant identifiée, qui constitue le croyant. Jésus a dit ainsi, et qu'il établit. Amen. Remarquez, maintenant nous, découvrons que les caractéristiques l'ont identifié. Comme il l'a dit, si cela Néhémie se passe pas, alors Néhémie me croyait pas. Maintenant, Jésus a dit que cela l'identifierait. Et dans sa prédication, que ferez-vous de ce Jésus 26 janvier 1964 p. 48. Frère Branham dit, la science chrétienne a dit, l'amour, et vous avez le fruit de l'esprit, mais Néhémie l'ont pas. Il nie la divinité de Jésus-Christ. Quelle en est-elle l'évidence? Quand cet esprit qui estère en vous, peut ponctuer chaque promesse avec un amen, et Dieu le confirmera. C'estère exactement la manière que c'était avec Jésus-Christ. Oh! Oui. Ils n'ont plus des fruits de l'esprit. Ils ont toutes sortes d'évidences. Vous, Néhémie, pouvez pas épingler une quelconque évidence, mais Dieu lui-même manifeste sa parole. C'est Esther la seule véritable évidence, que vous êtes un chrétien. Maintenant, cela nous ramène à notre déclaration d'ouverture, de frère Branham dans le dévoilement de Dieu paragraphe 126, eh bien, Et si vous prononciez seulement la parole, et que la parole n'a aucun effet, à quoi ça servirait d'avoir l'épée ici? Et dire, ennemi peut pas déchirer? Dire, en. Et que ça ennemi déchire pas? Mais quand vous posez cette épée de Dieu là-haut, regardez-la déchirer. Elle est tenue par une main qui a été établie et envoyée pour faire ça. Voyez-vous? Elle déchire le voile en deux. Et voilà. Il est là. Là, on peut voir Dieu, clairement, exposé au regard, le grand Jéhovah. Esther, sa parole manifestée, la portion qui est Esther promise pour le jour en question. Saisissez-vous? Voyez, quand l'épée, ce qui Esther promis pour aujourd'hui, ce qui doit arriver en ce jour-ci, quand Dieu prend son épée et qu'il déchire le voile des noms nationaux en deux et l'ouvre, et qu'il se manifeste et montre qu'il est là, toujours cette même colonne de feu. Remarquez, ça. C'est Esther la parole manifestée, pour les promesses d'aujourd'hui. Ainsi, nous parlons de la parole de l'heure, la rendant manifeste dans l'épouse de Christ. Dieu plaçons sa parole dans votre vase. Non pas seulement la voir, mais la faisant agir, comme elle est censée le faire. Jean 14, 12. Dans sa prédication, qui dit, vous que Esther, 27 décembre 1964 p. 103. Frère Branham dit, l'évidence du Saint-Esprit, c'est Esther de croire sa parole. Cela l'a toujours été, chaque âge, si vous pouvez recevoir les paroles. Ces prêtres avaient battu Jésus, 2 millions de miles, quand il s'agissait des fruits de l'esprit, doux, et paisible, et doux, et humble. Il a divisé les églises, leur a donné un coup de pied, et a divisé les gens, et les a traités de serpents dans l'herbe. Et chaque chose. Voyez? Mais il était la parole. Esther cela. Croire Dieu. Dieu Esther la parole. Croyez cela. Maintenant, nous vous avons montré ici qu'avoir les 9 fruits de l'esprit, n'aimez vous rien dire du tout, quand l'époux vient pour son épouse. Si on la trouve manquant le dernier fruit, si elle en manque, elle est rejetée, divorcée comme une prostituée et séparée de sa présence pour toujours. Ainsi, quel Esther ce 10e fruit, qui Esther si important, que sans cela, vous ne recevrez pas celui qui vient pour vous? C'est Esther un fruit de l'esprit comme les autres 9 pièces, qui sont aussi des fruits de l'esprit, mais ce n'est Esther pas mentionné dans Galates au chapitre 5. William dit dans sa prédication, les uns autant de la fin 25 juillet 1965 MP, 42. Remarquez. Mais Esther ce qu'ils produisent, qui vous montre la différence. Par leurs fruits, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez. Et ensuite, il dit, qu'Esther ce que le fruit. La parole pour, le fruit pour la saison, Esther ce que Esther, leur enseignement. L'enseignement de quoi? L'enseignement de la saison. Quel temps Esther? La doctrine de l'homme, la doctrine dénominationnelle, ou la parole de Dieu pour la saison. En d'autres termes, la doctrine de l'homme, la doctrine dénominationnelle, ou la doctrine de Dieu. Alors, quel Esther ce 10e fruit, ou la 10e drachme qui définissait ce qu'était cette femme? C'est Esther la doctrine de Christ. C'est Esther l'enseignement de la saison. C'est Esther cela. Car cette femme, l'église, savait que si son époux rentrait à la maison, et qu'elle Néhémie l'avait pas, elle serait rejetée de sa présence, et elle Néhémie lui appartiendrait plus pour toujours. Il lui dirait, je te connaissais comme ma femme, mais je Néhémie te connais plus comme ma femme. Et quelle est-elle cette autre doctrine qui soit importante? Que si vous n'aimiez la croyez pas, vous n'aimiez le Christ avait pas. L'apôtre Jean nous a dit dans 2 Jean 9 celui qui fait l'écho de la doctrine de Christ fait l'écho de Dieu. 2 Jean 9 quiconque va plus loin et n'aime y demeure pas, celui qui n'aime y demeure pas, dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et il nous a dit aussi dans 1 Jean 2, 23 quiconque ni le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Regardez. Ils disent que nous blasphémons parce que nous appelons Jésus le Fils de Dieu. Mais ils ont aussi dit que Jésus a blasphémé pour la même chose. Jean 10, 36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jean 5, 23 afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Jean 5, 26, car, comme le Père fait écho de la vie en lui-même, ainsi l'a donné au Fils de faire l'écho de la vie en lui-même. Maintenant, nous savons que c'est la doctrine de Christ, parce que c'est la doctrine que Jésus avait reçue de son Père et nous l'a enseignée. Jean chapitre 7, 16 Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et il dit aussi dans Jean 14, dis Néhémie crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je Néhémie les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr, à quoi ressemble ce dixième fruit? Frère Branham nous dit dans la prédication, messieurs, nous voudrions voir Jésus 4 mars 1964 p. 28, où il dit, vous voulez voir ce qu'est le fruit de l'esprit? Observez les promesses de la Bible pour une certaine période, alors regardez que cela soit confirmé. C'est l'évidence. C'est là l'évidence que vous avez reçu le fruit de l'esprit. Pour être capable de voir la parole de Dieu manifestée dans l'heure dans laquelle vous vivez. Et il vous a vivifié. Vous, qui étiez mort dans vos péchés. Numéro 5, que signifie allumer une lampe? 65 L'Église fera mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu, concernant notre pureté, notre loyauté et notre dévotion. Nous sommes devenus cancaniers, rapporteurs, fumeurs de cigarettes, médisants et des Jézabel peinturlurées. Oui, tout ce que le reste du monde fait, l'Église chrétienne s'y mêle aujourd'hui de sorte que vous pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Il est temps pour nous de faire l'inventaire. Il se fait tard. 66 Eh bien, pour que il était si tard qu'elle était obligée d'allumer une chandelle. Aussi se procura-t-elle une chandelle. Elle prit non seulement une chandelle, mais elle prit aussi un balai et se mit à balayer la maison. 67 Oh, mon frère, s'il y a jamais une époque où l'on a besoin d'allumer une chandelle, de répandre la lumière de l'Évangile, le Saint-Esprit, une fois de plus dans l'Église. Pas tellement pour une émotion, pas pour quelque chose de fantastique, pas pour être emballé dans une émotion ni pour sauter de joie, mais pour une expérience qui provoque un examen de conscience pendant lequel les hommes et les femmes se mettent en ordre avec Dieu. C'est vrai. Nous sommes au temps de la fin. 68 Et elle alluma une chandelle pour avoir de la lumière. Frère, et chaque petite chandelle ici devrait aussi être allumée ce soir. Non seulement cela, mais elle prit un balai, et les voisins pouvaient voir la poussière voler. Elle nettoya sa maison de fond en comble, car la venue de son mari était proche, et s'il la trouvait sans cette drachme, elle serait taxée de prostituée. 69 frères, dans ces glorieuses heures que nous vivons maintenant, il nous incombe, à nous l'Église du Dieu vivant, de nous examiner, de venir devant Dieu, d'allumer la chandelle de la parole de l'Évangile, et de nous examiner pour voir s'il ne nous manque pas quelque chose, surtout quand nous voyons tout ce qui se passe, nous sommes au temps de la fin. La venue de Christ est proche. Il n'y a pas d'autre espoir dans le monde pour l'Église. 71 L'Église luthérienne a perdu sa lumière, l'Église méthodiste a perdu sa lumière, l'Église baptiste a perdu sa lumière, l'Église pentecôtiste a perdu sa lumière. Toute lumière semble avoir disparu. 72 Les pentecôtistes et les gens de la sainteté agissent exactement comme les méthodistes. Les méthodistes agissent comme les baptistes. Les baptistes agissent comme les luthériens agissent comme les catholiques. Et tout a dégénéré en un très grand fêtras de péché. C'est vrai. Nous sommes au temps de la fin, la venue du Seigneur. Numéro 6, que signifie balayer la maison? Dans sa prédication, la seconde venue du Seigneur 17 avril 1957-68. Frère Branham dit, non seulement cela, mais elle prit un balai, et les voisins pouvaient voir la poussière voler. Elle nettoya sa maison de fond en comble, car la venue de son mari était proche, et s'il la trouvait sans cette drachme, elle serait taxée de prostituée. Et au paragraphe 73. Alors cette femme passa un temps à nettoyer sa maison. Elle nettoya le plancher à la brosse, elle nettoya les murs, elle enleva les toiles d'araignée, elle continua jusqu'à ce qu'elle eût retrouvé ce qu'elle avait perdu. Au paragraphe 82 voilà un mari et son épouse, qui sont l'image de Christ et de son Église. Et quand vous allez à votre Église, vous pouvez avoir les meilleurs bancs de la ville, vous pouvez avoir le clocher le plus élevé de la ville, vous pouvez avoir le meilleur orgue, vous pouvez être les gens les mieux habillés. Vous pouvez chanter comme un oiseau moqueur. Mais malgré tout cela, si vous baisez le monde et flirtez avec lui, alors ce baiser sur la joue de Christ n'est rien qu'un baiser de Judas. Il ne veut rien avoir à faire avec vous. En regardant votre anneau de mariage, il voit qu'il y a des drachmes qui ont été enlevées de la tablette. Il trouve que l'amour est reparti, ce n'est plus qu'un simulacre d'amour. Il découvre que la loyauté est repartie, vous avez commis la fornication avec le monde, vous allez au bal dansant, et au fait où l'on joue le boogie-woogie, et vous regardez des programmes malsains de télévision. Vous êtes en train de commettre adultère contre Christ, tout en l'appelant votre époux. 83 La Bible déclare, tu dis, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Mais il a dit, tu n'es mis c'est pas que tu es à nu, misérable, aveugle, pauvre, et tu n'es mis le sais pas. Il est temps que nous allumions la chandelle et que nous balayions la maison. La venue du Seigneur est proche. Numéro 7. Pourquoi Esther, elle si diligente quant à la recherche de cette drachme manquante? Quelles sont ces circonstances qui l'ont amené dans un état de panique pour trouver cette drachme perdue? Dans la prédication, les esprits séducteurs 24 juillet 1955-35, frère Branham dit, et, mercredi soir passé, j'ai prêché sur la femme qui porta ce scolier sur sa tête, où elle avait perdu une de ses drachmes, et elle balayait la maison et essayait de la retrouver avant le retour de son mari. Et nous avons vu que cette femme était une femme comme celle de l'Orient. Et elle représentait l'Église. Et, autrefois, on n'est mis portait pas l'alliance au doigt. On la portait autour de la tête, et il y avait 9 drachmes dessus. Et quand une femme devenait une prostituée, on enlevait une drachme, et ça montrait qu'elle était une prostituée. Et donc, cette femme-là avait perdu une drachme, sans être une prostituée, mais son mari avait été absent, et elle se dépêcha d'essayer de trouver cette drachme pour la remettre dans son collier. Quand son mari arriverait, il saurait qu'elle avait été surprise en flagrant délit de prostitution, ce qui aurait pour résultat un ménage brisé, et tout. Et, pendant quelques instants, j'ai appliqué ça à l'église, elle a perdu beaucoup de grandes choses. Et c'est-à-dire le moment où le Père va venir, alors, nous devons les rechercher. Numéro 8. Quelle est la signification de son appel à ses amis et ses voisins à venir ensemble? Dans sa prédication, la fête des trompettes 19/07.1964 m. p. 108. Frère Branham dit, maintenant, aussitôt que cette église, l'épouse Esther rassemblée, elle Esther enlevée, dans ce mystère du septième sceau, ou le septième sceau, c'est Esther le mystère du départ. Dans sa prédication, l'Éden de Satan 29 août 1959 p. 18. Frère Branham dit, les gens, sans le savoir, adorent Satan, croyant adorer Dieu, comme nous prévient la prophétie de 2 Thessaloniciens. Lisons donc cela, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Prenons donc cela un instant, si je peux le trouver tout de suite. J'aimerais lire cela juste un. Je crois que c'est Esther bien 2 Thessaloniciens. J'ai le passage de l'Écriture, ici, il est Esther dit, pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus, et la réunion avec lui, nous vous prions. Frères, voyez, l'avènement, ce mot Esther parousie, du Seigneur, et la réunion avec lui, quand Dieu réunira son peuple avec lui dans les derniers jours, la réunion des gens avec le Seigneur, pas avec l'Église. La réunion avec lui avec le Seigneur. Numéro 9. Qui sont les voisins et les amis qu'elle appelle? Je crois que c'est Esther tous les gens autour du monde, qui ont été appelés par le dixième fruit de l'Esprit, laquelle Esther la doctrine de Christ, l'enseignement de l'heure. Ils ont été invités au souper du Seigneur, et viennent avec la même excitation comme la femme, Église, qui a trouvé ce qu'elle cherchait. Et ils se réjouissent comme si, eux aussi avaient perdu leur propre drachme, et qu'il l'avait maintenant retrouvé. Luc 14, 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Matthieu 22, 9-10. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Frère Branham dit, alors cette femme passa un temps à nettoyer sa maison. Elle nettoya le plancher à la brosse, elle nettoya les murs, elle enleva les toiles d'araignée, elle continua jusqu'à ce qu'elle eût retrouvé ce qu'elle avait perdu. Et quand elle l'eut retrouvé, elle invita alors toutes ses petites sœurs, les églises. 74. Peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou presbytérien, venez, réjouissons-nous ensemble. Quand viendra le temps où l'Église retrouvera son amour fraternel, sa sainte pudeur et sa place en Jésus-Christ, alors elle appellera les autres membres du corps en disant, venez vous réjouir avec nous. Dieu veut que l'Église l'aime. Numéro 10. Pourquoi ensemble? Quelle en est la signification? Cela signifie l'unité de l'esprit. Comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 1, 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout un même langage, et à n'aimer point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Numéro 11. Que signifie cette réjouissance dans cette parabole? Apocalypse 19, 7-8 Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Numéro 12. Que signifient ces mots « j'ai retrouvé » ce qui était perdu? Souvenez-vous, dans l'alpha, elle avait aussi perdu quelque chose, et l'alpha est devenu l'oméga. Et ce que perdit, elle dans ce premier âge de l'Église, elle a perdu son premier amour. De même, l'Église en cette heure, a perdu son premier amour. Et quand Dieu est descendu avec un cri en cette heure et nous a restauré ce premier amour, nous Néhémie pouvions pas contenir notre paix. Ainsi, nous avons appelé l'épouse ensemble autour du monde, pour connaître ce que nous connaissons, pour voir ce que nous voyons, pour entendre ce que nous entendons, et pour partager dans la découverte, notre premier amour de nouveau. Laissez échapper la pression 18 mai 1962-102. Notre Père Céleste, nous pouvons voir Seigneur, que l'Église a perdu son premier amour. Nous pouvons voir l'Église entière, à travers tout le pays, Esther tombée, non seulement la nation, mais le monde. Nous réalisons que tu as parlé l'autre matin et avais dit, le temps d'ensemencement ici Esther terminé. Que le seul endroit pour semer les semences, c'est Esther dans les champs à l'étranger. C'est Esther glanée sur le chaume. Et, ô Dieu, il est vrai, que ses paroles étaient justes. Résumé des âges de l'Église 368-1 Le livre des âges de l'Église chapitre 10. Dans cet âge également, la vraie Église avait perdu son premier amour. Cet amour était symbolisé par l'amour d'une jeune mariée et de son époux à leur mariage et durant leurs premières années de vie conjugale. Or, cet amour absolu et cet abandon total à Dieu se refroidissaient. L'âge de l'Église d'Éphèse, livre des âges de l'Église chapitre 3. 77-1 Le nom d'Éphèse lui-même a un sens composé étonnant. Visant et relâché. Les aspirations élevées de cet âge, qui avait débuté avec la plénitude de l'Esprit, la profondeur de Dieu, par laquelle il visait l'appel élevé de Dieu, commença à céder la place à une attitude moins vigilante. Esther avec un peu moins d'ardeur qu'auparavant concevait Jésus-Christ, ce qui présageait l'attitude du véhicule physique qu'Esther l'Église dans les âges suivants, où elle allait sombrer dans l'horreur des profondeurs de Satan. Elle s'était relâchée et commença à dériver. Déjà, cet âge rétrogradait. Il avait abandonné son premier amour. La minuscule semence plantée dans cet âge d'Éphèse allait finir par se développer, dans l'esprit de l'erreur, au point que tous les oiseaux impurs de l'air feraient de ses branches leur repère. Cette petite pousse semblerait, aux yeux de la nouvelle Ève, la nouvelle Église, si inoffensive d'après le raisonnement humain que cette nouvelle Ève se laisserait séduire par Satan. L'âge d'Éphèse lui avait offert le meilleur de Dieu, et elle avait tenu bon pendant un moment, mais ensuite elle s'était relâchée et, dans ce moment d'inattention, Satan a planté la semence de la ruine totale. 88-2 Le désir fervent d'être agréable à Dieu, la passion de connaître sa parole, la volonté de s'avancer dans l'esprit, tout cela avait commencé à s'estomper, et cette Église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, s'était refroidi et était devenu un peu formel. C'était là ce qui était arrivé à ces Éphésiens. À l'époque, ils devenaient un peu formels. L'abandon à Dieu disparaissait, et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d'eux, alors qu'ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d'eux. La deuxième génération qui a suivi était comme Israël, ils ont réclamé un roi pour être comme les autres nations. En faisant cela, ils rejetaient Dieu. Mais ils l'ont fait quand même. C'est Esther l'histoire de l'Église. Quand elle pense plus à se conformer au monde qu'à se conformer à Dieu, on est imitaire de pas aller voir arrêter de faire ce qu'il faisait avant, et se mettre à faire des choses qu'il n'aimait faisait pas au départ. Il change de façon de s'habiller, d'attitude et de comportement. Il se relâche. Esther, ce que signifie Éphèse, relâchement, laissez aller. 89-1 Ce cycle de réveil et de mort n'a jamais cessé. Il suffit de vous rappeler, cette dernière époque où Dieu agissait dans l'esprit, quand les hommes et les femmes s'habillaient comme des chrétiens, qu'ils allaient à l'église, qu'ils priaient toute la nuit, qu'ils allaient au coin de la rue et qu'ils n'avaient pas honte des manifestations de l'esprit. Ils quittaient leurs vieilles églises mortes, et ils faisaient le culte dans des maisons ou de vieux entrepôts. Ils avaient une réalité. Mais avant longtemps, ils ont eu assez d'argent pour construire de nouvelles églises, toutes belles. Ils ont mis une chorale, au lieu de chanter eux-mêmes pour Dieu. Ils ont donné des uniformes à la chorale. Ils ont organisé ce mouvement. Des hommes en ont pris la direction. Ils ont au fait de se mettre à lire des livres qu'on n'a mis devrait pas lire. Ils ont levé les barrières, et des boucs sont venus prendre la relève. Étaient partis. Oh! Ils ont bien entretenu une forme, mais le feu s'était éteint, et il n'y reste pas grand-chose d'autre que des cendres noircies. 89-2 Il y a quelques instants, j'ai dit que j'en comprenais ce que c'était que d'aimer Dieu. Ce grand apôtre de l'amour allait certainement le remarquer, si l'Église commençait à perdre ce premier amour pour Dieu. Dans Jean 5.3, il dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, sa parole. Le moindre écart par rapport à cette parole était un pas qui éloigne de Christ. » Les gens disent qu'ils aiment Dieu, ils vont à l'église, ils crient même, ils se réjouissent, ils chantent et ils se sentent bien dans les émotions. Mais une fois tout cela terminé, observez pour voir s'ils sont dans la parole, s'ils marchent selon la parole, s'ils la vivent, s'ils font tout le reste, et que Néhémie ne marche pas selon cette parole, alors ils peuvent bien dire qu'ils aiment Dieu, mais leur vie dit autre chose. Je me demande si Jean n'a pas vu beaucoup de cela avant de mourir, des gens qui disaient aimer Dieu, mais qui n'obéissaient pas à sa parole. Oh! Église d'Éphèse, quelque chose Esther en train de vous arriver. Quelqu'un essaie d'ajouter à cette parole ou d'en enlever quelque chose. Seulement, ils le font de façon si subtile que vous n'y voyez rien. Ils n'ont pas fait cela en grand, pour que vous puissiez le voir se produire ouvertement. Esther cachée, ils introduisent cela par le biais du raisonnement et de la compréhension humaine, et cela s'emparera de vous si vous n'aimez mais le refusez pas. Retournez à la Pentecôte avant qu'il n'ait mis soit trop tard. 89-3 Mais comme d'habitude, les gens n'aient mis prêtent pas attention à l'avertissement de Dieu. Ce feu du réveil nourri de la parole sacrée Esther si merveilleux, et la manifestation de l'esprit Esther si béni, qu'une petite crainte se glisse dans le cœur et chuchote, comment ferons-nous pour protéger cette vérité que nous avons? Que pouvons-nous faire pour voir à ce que ce réveil continue? C'est Esther là que l'esprit antichrist entre et chuchote. Écoutez, vous avez la vérité maintenant, voyez donc à ce qu'elle n'ait mis se perde pas. Faites une organisation et établissez comme credo ce que vous croyez. Mettez tout cela dans un manuel d'église. Et ils le font. Ils font une organisation. Ils ajoutent à la parole. Et ils meurent. Tout comme Esther morte pour avoir pris une seule parole de travers. C'est Esther la parole de Dieu qui donne la vie. Et ce qui compte, ce n'Esther pas ce que nous, nous disons de la parole. Mais Esther ce que Dieu a dit. Prions. Ce sermon a été traduit en langue française par le frère Bill Wenga, bilvanga@yahoo.fr. C'est Grass Fellowship Tabernacle, Ohio, USA.